VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du vendredi 2 octobre 2015, à la une ce soir.
Le cycle de la violence persiste au Burundi, 2 personnes ont été tuées aujourd'hui. Entre-temps, l'Union européenne impose des sanctions et appelle au dialogue.
C'est déjà un pas symbolique et c'est le symbole même qui était plus important parce que, après tout, ces gens sont des gens très nocifs.
Attentat suicide au Nigeria, au moins 14 morts dans 4 attaques à Maïdougouri hier soir.
100 millions de francs CFA à chacun des 10 candidats à la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Les adversaires de Ouattara prennent l'argent et dénoncent une mauvaise gouvernance.
Plein feu sur la 70e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Ici Tatiana Mosso à New York. Nous reviendrons ensemble sur le discours du président de la transition au Burkina Faso, Michel Cafando.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
2 personnes ont été abattues ce vendredi matin en plein centre-ville de la capitale du Burundi, Bujumbura. Cet assassinat coïncide avec les sanctions infligées à 4 proches du pouvoir accusés d'avoir réprimé les manifestants. L'Union européenne appelle au dialogue comme la seule issue à la crise que traverse le pays depuis la confirmation du 3e mandat du président burundais. Christophe Kourounziza, notre correspondant à Bujumbura, fait le point.
Il est 9h30 quand des détonations automatiques sont entendues au centre-ville de Bujumbura. 2 personnes mortes dorment dans une mare de sang dans une voiture de marque Toyota Ti. C'est sur l'avenue de la Révolution. Les sources de la police confirment que ces personnes venaient de retirer de l'argent quand des hommes armés ont tiré sur elles. Mercredi, au moins 4 personnes, dont l'officier de police Jean-Claude Kazungu et un membre des services de renseignement, connu sous le sobriquet de Family, ont été assassinés dans 2 quartiers au nord de la capitale. Ces assassinats interviennent au moment où l'Union européenne a adopté jeudi des sanctions contre 4 personnes impliquées dans la répression contre les manifestants qui s'opposaient en 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le directeur adjoint de la police, Godefroy Bizimana, et le chef de cabinet de l'administration présidentielle chargé de la police nationale, Gervais Ndirakobucha alias Ndagukugarika, figurent parmi les personnes sanctionnées. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
RCA, le calendrier électoral au cœur des débats. La communauté internationale milite en faveur du maintien des élections législatives et présidentielles au 18 octobre. Mais sur place, de plus en plus d'acteurs locaux réclament le report pur et simple. C'est le cas de Jean-Willy Biro Sako, l'un des candidats à la présidentielle.
Pour le souhait de tout le monde, je crois, c'est que les élections se tiennent. Mais il faut être réaliste. Les élections sont des opérations assez délicates, assez complexes, qui doivent se tenir dans un certain environnement avec un minimum de conditions réunies. C'est tout. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les grandes difficultés actuelles, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan de l'avancement des travaux préparatoires de l'ANE elle-même. Je sais que sur le plan financier, les problèmes ont été plus ou moins résolus avec les annonces qui ont été faites à New York par rapport à l'appui à l'ANE. Mais les autres éléments objectifs, la sécurité, l'état de préparation au niveau de l'AME, l'état d'avancement du financement et la production des listes électorales sont des données incontournables qui, tout est fait pour que ces quelques problèmes puissent être résolus et tout le monde ira aux élections.
Jean-Willy Biro Sako, candidat à la présidentielle en République centrafricaine.
RCA toujours, des groupes armés empêchent les organisations humanitaires d'accéder à plus de 42 000 déplacés à Bangui. C'est ce que rapporte l'ONU. Ces personnes ont fui les récentes violences dans la capitale centrafricaine et sont vraiment démunies. Mais les humanitaires ne peuvent pas les atteindre à cause de l'insécurité. Bloquer délibérément cette aide est une violation des lois internationales, rappellent les Nations Unies. Par ailleurs, plus de 2 bureaux d'ONG ont été pillés, provoquant la fuite de leurs employés. L'ONU signale aussi que la situation en province se dégrade alors que des groupes armés sèment la panique au sein de la population. Les Nations Unies appellent donc tous ceux qui sont impliqués à cesser les violences.
Au moins 14 morts dans 4 attentats suicides à Maïdougouri jeudi soir, selon l'armée nigériane. Michel Joseph nous en dit plus.
Au moins 14, dont les 4 kamikazes et 39 blessés hier soir dans ces derniers attentats. Un porte-parole a déclaré que les attaques ont eu lieu à proximité de la voie ferrée Adjilari à Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Cette ville est régulièrement la cible d'attaques de Boko Haram. Le 20 septembre, 100 personnes ont péri dans une série d'explosions coordonnées attribuées aux islamistes armés. En août, le président Muhammadu Buhari avait donné aux commandants militaires un délai de 3 mois pour mettre fin à l'insurrection. Hier, selon l'armée nigériane, 80 combattants de Boko Haram se sont rendus dans la ville de Bama. Depuis 2009, plus de 10 000 personnes ont été tuées dans la violente campagne pour imposer la loi islamique dans le nord du Nigeria.
Et tragique bilan pour le Niger suite à la bousculade du 24 septembre près de la Mecque. 28 Nigériens sont morts et 89 sont portés disparus à Mina. C'était lors du grand pèlerinage musulman. Les recherches des disparus et l'identification des victimes se poursuivent, mais le processus se complique à mesure que le temps passe.
Et la Tunisie a annoncé ce vendredi soir la levée de l'état d'urgence qui avait été réintroduit début juillet suite à l'attentat sanglant de Sousse. Cet attentat revendiqué par le groupe État islamique avait fait 38 morts, rappelle l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au troisième jour des raids aériens russes en Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme apporte des renseignements complémentaires sur les cibles de ces frappes. Le point avec Dili Diko.
Selon le ministère russe de la Défense, le bilan provisoire des premiers raids est de 12 djihadistes tués jeudi soir lors d'une frappe qui a visé la province de Raqqa, fief du groupe État islamique. C'est la première fois depuis le début des frappes que les Russes bombardent Raqqa, dont le chef-lieu est considéré comme la capitale de Daesh. Moscou a indiqué que ces bombardiers ont ciblé un poste de commandement à Kasrat Faraj, au sud-ouest de Raqqa, et un camp d'entraînement près de Madan Jadid à l'est. Les porte-paroles russes ont rapporté que 3 autres provinces ont été touchées, Alep, Idleb et Hama, où des postes de commandement et des camps de stockage d'armes ont été détruits. Ces frappes ont continué aujourd'hui. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le groupe État islamique n'a pas de présence dans ces villes. C'est le groupe Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui domine ces régions.
La Russie a par ailleurs affirmé lutter contre le groupe État islamique et tous les autres groupes terroristes en Syrie. Washington soupçonne Moscou de s'en prendre surtout aux opposants de Bachar al-Assad.
Un avion de transport militaire américain C-130 s'est écrasé aujourd'hui sur la piste de l'aéroport de Jalalabad dans l'est de l'Afghanistan, faisant 11 morts, 6 militaires américains et 5 contractuels civils de l'OTAN. Les causes de l'accident font actuellement l'objet d'une enquête. Les talibans disent avoir abattu l'appareil, ce que démentent les autorités américaines.
Au Yémen, le détroit stratégique de Bab al-Mandeb, aux mains des rebelles chiites depuis plusieurs mois, est passé sous contrôle gouvernemental. En tout cas, c'est ce qu'annonce un responsable de l'armée du président Mansour Hadi. Une bonne partie du trafic maritime mondial transite par ce détroit.
Les motifs du tireur qui a abattu 9 personnes sur un campus de l'ouest des États-Unis jeudi restaient mystérieux. Aujourd'hui, des bribes de biographies faisant apparaître un jeune homme taciturne. L'Amérique, elle, se déchire sur le contrôle des armes à feu, comme après chaque massacre. Claire Morin-Gibourg.
La police s'est rendue chez le tireur, mais il est encore trop tôt pour dire quel était son motif, a précisé le shérif du comté local, John Hunlin. Il a confirmé que le tueur avait été abattu par les forces de l'ordre, car il était armé jusqu'aux dents. Il a appelé les médias à la prudence.
Nous vous demandons de ne pas exalter ni de faire de sensationnalisme sur lui. Il ne le mérite en aucune façon.
Il n'a pas été confirmé si, comme le rapportent plusieurs médias, le tueur avait demandé aux étudiants de dire s'ils étaient chrétiens. Paniqués, les étudiants se sont protégés comme ils pouvaient. Anna, elle, a pu s'enfuir.
L'un de mes camarades de classe s'est levé et il a dit « Tout le monde dehors, allez, on y va ». Et on s'est immédiatement mis à courir.
Le maire de Rosebourg, bourgade rurale et tranquille, a dénoncé un crime insensé. Des dizaines de personnes, beaucoup en larmes, se sont recueillies jeudi soir autour d'une veillée aux chandelles.
« Bonne nouvelle pour les habitants de la côte est des États-Unis. L'ouragan Joaquin de catégorie 4 qui a déversé des pluies torrentielles sur les Bahamas ce vendredi ne devra pas avoir d'impact direct sur la région, ce qui n'empêche pas les gouverneurs de 5 États, New Jersey, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Maryland, de déclarer l'urgence et d'annoncer des mesures de contingence, y compris la mobilisation de la garde nationale. Il y a près de 3 ans, un super ouragan, Sandy, suivait une trajectoire presque similaire avant de changer de cap et dévaster le New Jersey et New York, tuant plus de 120 personnes et causant des dégâts évalués à 70 milliards de dollars.
Économie américaine, le nouveau rapport du département du travail fait état de 142 000 emplois créés le mois dernier, une déception selon les experts. Quant au taux de chômage à l'échelle nationale, il reste à 5,1%, mais seulement parce que beaucoup d'Américains sans emploi n'essaient plus de trouver du travail. Les chiffres pour le mois précédent ont également été revus à la baisse. Cela pourrait porter la réserve fédérale à maintenir ses taux directeurs inchangés, donc extrêmement bas pour le dernier trimestre de 2015. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Eric Manirakiza.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine regroupant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo a enregistré une croissance de 6,5%. Selon un rapport annuel établi par le secrétariat du comité monétaire de la zone franc, assuré par la Banque de France, il s'agit de sensibles progressions. Le même rapport précise que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en l'occurrence le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, l'économie a effectué un rebond substantiel avec une croissance de 4,7%. En revanche, aux Comores, la croissance a ralenti à 2,1% en 2014. La société minière Kibali Gold Mines, dont l'État congolais détient 10% des actions, devrait créer une zone d'exploitation spéciale pour les creuseurs clandestins dans l'extrême nord-est de la République démocratique du Congo. Objectif, éviter les tensions. Enfin, l'économiste français Thomas Piketty a estimé aujourd'hui vendredi que l'aide internationale n'était pas forcément bénéfique aux pays africains. S'exprimant à Johannesburg devant la Fondation Nelson Mandela, M. Piketty a épinglé l'Afrique du Sud. Il a estimé qu'il y avait beaucoup de doutes sur l'efficacité des politiques mises en place après l'apartheid, prétendument pour mieux répartir les richesses.
Merci Eric pour cette Minute Éco. Et nous passons tout de suite au sport avec Nicolas Pino. Salut Nicolas et bon vendredi.
Bonsoir Chérubin.
Un vendredi pour parler de basket, Afro-Basket 2015 à Yaoundé.
Place aux demi-finales, Cameroun-Nigeria à suivre et Angola-Sénégal. L'Afrique du Sud termine 12e et dernière de la compétition après sa défaite 49-87 face à l'Algérie. La Guinée, 10e après avoir battu de justesse l'Ouganda 5-2 à 53. Et le Mozambique qui a également battu évidemment une équipe ce soir. On va à présent parler de football, Gabi.
Oui, pour parler plus précisément, Nicolas, du Ballon d'Or.
Une première préliste de 59 joueurs en course pour le Ballon d'Or 2015 a été publiée ce vendredi par El Mundo Deportivo. Parmi les myriades de stars, on note la présence de 4 Africains. D'abord, bien sûr, Yaya Touré, habitué de la liste finale et champion d'Afrique. Un titre partagé avec son coéquipier et compatriote Wilfried Bonny. Deux Ghanéens également à suivre, André Ayou et Christian Atsu. À noter également que Mehdi Benatia et Ahmed Moussa de la Russie avec le CSKA, ils ont été oubliés.
Athlétisme, le Kenya.
La fédération d'athlétisme kenyane a suspendu 2 athlètes, dont Agatha Geruto sur 800 mètres, après qu'elles ont été sanctionnées par la Fédération internationale d'athlétisme pour dopage. L'IAAF a annoncé qu'Agatha Geruto, 21 ans, et la marathonienne Joséphine Jepkorir, 26 ans, avaient été testées positives à la nandrostérone, un stéroïde anabolisant. Geruto a été contrôlée positive lors des tests au Kenya en avril et suspendue pour 4 ans.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, Golden State Warriors, champion NBA en titre, finalise sa préparation pour cette saison sans leur entraîneur Steve Kerr, contraint de faire une pause après 2 opérations au dos cet été.
Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guerriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Burundi.
Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit, CNARED, la nouvelle plateforme de l'opposition contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, estime symbolique les sanctions prises par l'Union européenne à l'égard de quatre hauts responsables de la police burundaise. Toutefois, le CNARED réitère son récent appel à l'Union européenne pour multiplier les sanctions plus lourdes, visant particulièrement les véritables cerveaux des actes de violence. Eric Manirakiza a joint à Kigali, au Rwanda, le vice-président du CNARED, maître François Nyamuya.
C'est déjà un pas symbolique et c'est le symbole même qui était plus important parce que, après tout, ces gens sont des gens très nocifs, des gens comme Ndakugarika ou des gens comme Kazungu et même ce directeur général. En général, ce sont des gens extrêmement nocifs. Les sanctions qui ont été prises à leur encontre n'auront pas, disons, de résultats palpables parce que ce ne sont pas des gens qui ont des avoirs en Europe, ni même qui voyagent en Europe. Mais symboliquement, c'est déjà un pas, c'est ce qui est le plus important.
Est-ce qu'au niveau du CNARED, vous êtes satisfait de ce début?
Nous sommes satisfaits parce que nous sommes conscients du mode de fonctionnement d'une structure aussi grande que l'Europe. Il y a beaucoup d'États, il y a beaucoup de sensibilités. Donc pour arriver à un résultat comme celui-là, au moins au niveau du principe, c'est déjà quelque chose de très satisfaisant. Évidemment, à notre niveau, et compte tenu de ce qui se passe sur le terrain au Burundi, on aurait souhaité des sanctions encore plus lourdes, plus sévères, qui touchent d'autres personnes.
Le président Nkurunziza n'a pas été frappé par ces sanctions. Pourtant, c'est lui le chef suprême des quatre personnalités qui ont été visées par les sanctions. Est-ce que vous comprenez les raisons?
Matériellement parlant, il n'a pas été touché. Mais politiquement parlant, c'est le président de la République qui est sanctionné en réalité. Encore faut-il qu'il le comprenne, lui. Mais dans les relations internationales, dans les relations d'État, le véritable sanctionné, c'est le président Nkurunziza. C'est lui qui est sanctionné en réalité. Va-t-il en tirer les conséquences? Ça, c'est une autre chose. Et j'en doute très fortement.
Quelle devrait être la prochaine étape?
Ce serait d'aller beaucoup plus loin dans les sanctions, en visant même, y compris, des gens qui sont au niveau des structures du gouvernement, comme le ministre de la Sécurité, Bougnoni, comme le ministre des Relations extérieures, comme le responsable de la communication du président de la République. Ce sont ces gens-là qui sont les véritables cerveaux. Et il y a urgence, parce que si les sanctions ne sont pas prises encore plus sévères que celles-là, on risque de s'embourber dans la violence, et une violence qui risque d'être même incontrôlée.
Maître François Nyamuya, joint à Kigali au Rwanda.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le gouvernement ivoirien a octroyé un financement de 100 millions de francs CFA à chacun des 10 candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre. Cet argent est destiné à la campagne, selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Namagné Koné, à l'issue d'un conseil des ministres. Pour Mamadou Koulibaly, candidat à la présidence, c'est une mesure de mauvaise gouvernance.
La formulation même de l'expression « le président Ouattara offre 100 millions aux candidats » montre toute l'ambiguïté et toute la mauvaise gouvernance qu'il y a autour de ce financement. Le président de la République en question n'est rien d'autre qu'Alassane Ouattara, lui-même candidat. La chose se présente comme si c'est un candidat qui prend la caisse de l'État dans sa main, qui appelle ses adversaires, les autres candidats, et puis leur distribue 100 millions sans leur dire ce qu'il y a dans la caisse. C'est totalement antidémocratique parce que Ouattara étant candidat, depuis le jour où le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats, les 10 dont il fait partie, il n'a plus à gérer l'État de Côte d'Ivoire comme il l'a géré pendant ses 5 ans en tant que président de la République.
Alors, M. Koulibaly, est-ce que vous soupçonnez quelque chose de louche dans cette affaire?
Je soupçonne une fraude massive, un détournement massif qu'il y a derrière. Depuis 3 ans, Alassane Ouattara est en campagne. Et depuis 2015, c'est la campagne à outrance, il ne fait plus que ça. La loi dit que le financement doit être équitable entre les différents candidats. Nous nous pensions qu'il aurait calculé toutes les sommes qu'il distribue à l'intérieur du pays quand il tourne et qu'il présente cela comme des visites d'État, comme s'il allait en visite dans un autre État. C'est toutes ces sommes qu'il faut calculer, ces milliards qu'il distribue, lui et sa femme, à droite et à gauche. C'est toutes ces sommes dépensées pour sa campagne qu'il aurait dû calculer et puis verser le même montant à tous les autres candidats pour être équitable. Au lieu de cela, et il appelle les autres et puis il leur donne 100 millions, pas pour la pré-campagne, mais pour la campagne entière, alors que lui, là, le jour même où il nous appelle pour dire « vous aurez 100 millions », c'est 100 millions qu'il dépense par jour quand il est à Daloa, Yamoussoukro, et il donne à ses adversaires ce montant pour une campagne présidentielle, pré-campagne et campagne présidentielle. C'est de la mauvaise gouvernance pure.
Comment doit réagir un candidat face à cette manne qui tombe du ciel?
Nous nous sommes allés chercher le chèque en considérant simplement que c'est une avance sur le financement de la campagne. Je pense que les candidats devraient aller chercher cette somme, mais en se disant que c'est une avance, ce n'est pas le montant tel que décrit par la loi, parce qu'il n'est ni équitable, il n'est ni donné de façon transparente et il n'est pas clair que ce soit Ouattara qui donne de l'argent à ses adversaires. On prend et on continue la discussion jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ou les institutions de la République se rendent compte que le candidat Ouattara ne peut pas donner de l'argent aux autres candidats.
Mamadou Koulibaly, candidat à la présidence en Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
En République démocratique du Congo, journée de deuil et de médiation dans le territoire de Béni. La population s'est rendue en différents lieux de prière à l'appel de la société civile. En commémoration à plus de 500 personnes sauvagement tuées en un an dans la région. Eddy Sango a joint à Béni le président de la société civile, Teddy Catalico.
Toute la population a été appelée à aller dans les églises de 9h à 11h afin d'implorer la grâce du Seigneur et prier pour ce pays, et plus particulièrement pour le territoire de Béni qui est sous menace du terrorisme. Jour pour jour, on a eu, notre coordination a documenté 512 cas, 512 personnes tuées d'une façon odieuse à la hache, à la machette, avec des marteaux, mais aussi en utilisant pour certains, donc tuer en arme à feu. Donc voilà, et d'une façon globale, le bilan macabre de ces actes terroristes orchestrés par les groupes qui sont dans la zone depuis une vingtaine d'années.
Est-ce que ces massacres se poursuivent? Est-ce que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée? Il y a quand même eu des opérations militaires dans ces zones, plusieurs opérations militaires quand même.
Pour le seul mois de septembre, on a eu à enregistrer 27 personnes tuées, 23 personnes enlevées, plus de 7 véhicules brûlés sur la nationale numéro 4, mais aussi plus ou moins 7 attaques donc sur les parts, sur les positions militaires et fabriquées. Donc la situation est devenue plus pure qu'avant. Il y a ajouté des milliers de personnes qui sont contraintes à être des déplacements massifs dans les zones éloignées du Oïtia, donc qui sont contraintes à se déplacer, à laisser leurs chats ou cultivés, mais aussi des milliers d'affaires qui ne savent pas accéder à la scolarité.
Des mesures préventives avaient été annoncées par les autorités de la province ou du territoire, demandant à la population et aux villageois de quitter les zones reculées. Est-ce que la population n'observe pas ces mesures?
Non, la population a réellement quitté les zones ciblées. Les zones sont vides. Maintenant, voilà que les terroristes poursuivent les populations dans les grandes agglomérations. Donc, des embuscades sur la nationale numéro 4. C'est pour dire que le gouvernement devrait beaucoup plus prendre des dispositions pour contrer les terroristes.
Teddy Catalico, président de la société civile à Béni.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando, à New York, a remercié la communauté internationale d'avoir soutenu le retour à l'ordre constitutionnel dans son pays. On revient sur son discours à l'Assemblée générale de l'ONU avec Tatiana Mousseau, notre envoyée spéciale à New York.
C'est le comeback de Michel Kafando. Dans une allocution courte comparée aux interventions de ses homologues, le président intérimaire, fraîchement rétabli dans ses fonctions, a été plutôt reconnaissant envers la communauté internationale. Il a remercié tour à tour les différents acteurs et surtout le peuple burkinabé. Il est revenu sur le coup d'État d'il y a 2 semaines et sa prise en otage.
Je veux exalter la liberté tout court pour en avoir été privé récemment. J'en mesure désormais le prix. Devant cette assemblée, je suis venu saluer la démocratie, devenue aujourd'hui un canon universel. Sauf au Burkina Faso où des prétoriens d'un autre âge, ramant à contre-courant de l'histoire, ont tenté de la confisquer pour assouvir leurs ambitions sordides.
Dans un costume sombre à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, il a aussi abordé les questions internationales. La pauvreté, le développement, l'éradication du virus Ebola ou encore l'avenir de la jeunesse. Et l'un des thèmes dominants de cette 70e Assemblée, le terrorisme.
Le Burkina réaffirme sa ferme volonté de contribuer résolument aux efforts de maintien de la paix dans le monde. Cet engagement se traduit déjà par notre présence active dans les opérations de paix, notamment en République sœur du Mali, avec pour double mission la sécurisation du territoire et la lutte contre le terrorisme.
Enfin, on notera ce clin d'œil diplomatique fait aux États-Unis, où Michel Kafando a vécu longtemps. C'est son plaidoyer au nom du Burkina Faso pour la levée de l'embargo à Cuba.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi, nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique.
Cette édition touche à sa fin, à la mise en onde, c'est vendredi, on est un peu fatigué. Michel Joseph, présentation Morgane Guériec et Chérubin Dorsil.
On remercie notre ami Van Calio à la console, plutôt Volaric à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui, retrouvez-nous sur Facebook et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.